One, two, three, four!
I love the colorful clothes you wear.
Rock in place.
En 1968 paraît un nouveau magazine, c'est Best, qui est tout d'abord un bimensuel. De septembre 1968 à juillet 1969, je suis allé rencontrer Jacques Morlin, l'un des deux fondateurs, avec Gérard Bernard. Je vous propose donc une petite interview, un flashback dans l'année 68.
Alors je suis avec Jacques Morlin, qui est le premier directeur historique de Best. Bonjour Jacques.
Bonjour Mike.
Tu vas nous raconter un petit peu cette belle épopée. D'abord, comment est venue l'idée de créer Best ? Rappelle-nous aussi en quelle année et quel mois les premiers numéros sont parus.
Alors le premier numéro, c'est le 21 septembre 68. On devait le monter en mai 68, mais avec les événements, on a repoussé un peu tout ça.
Ah, d'accord.
Et donc le premier donc, est sorti le 21-9-68. On a monté Best parce que il n'y avait pas en France à l'époque, il n'y avait pas de presse qui s'occupait vraiment de l'anglo-saxon spécialisé dans l'évolution musicale. Donc on a pensé que c'était une demande du public et on a lancé ça. Voilà.
Et tu étais déjà dans le milieu musical ou de la presse ?
Oui, alors je travaillais avec Jean-Claude Berton. De discours vu, où je m'occupais essentiellement de comptabilité. Je m'occupais des kiosques NMPP et on recevait tous les mois les fiches, combien il y avait de journal dans chaque kiosque. Et puis quand il n'y en avait pas assez, j'en remettais. Enfin voilà, c'était une gestion des kiosques NMPP. Voilà comment je suis rentré.
Et tu étais là à discours vu et après avec le magazine Les Rockers.
Pas du tout. Je suis parti de Disque Revue avec donc, le rédacteur en chef qui s'appelait Gérard Bernard, qui était le maquettiste, parce que Best était quand même une révolution au niveau de la maquette, et à nous deux, on a monté Best. Voilà.
Donc l'année 67 se passe avec Gérard Bernard à réfléchir.
À monter un nouveau journal, un nouveau magazine, et il prend jour, il naît le 21-9-68. Voilà.
Alors je vois dans la premier staff de rédaction, Catherine Claude.
Oui.
Elle venait aussi de on peut dire que c'est la première journaliste,
absolument.
La première rock critique que je n'ai jamais rencontrée.
Oui, oui.
Jean-Noël Coge.
Jean-Noël Coge, bon, qu'on connaît.
Aussi, hein. Voilà. Alain Gaillard,
qu'on a perdu de vue.
Qui faisait des articles aussi.
Oui, 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 absolument, oui.
D'accord. Et je vois aussi Norbert Petit.
Ça ne me dit plus rien, c'est pas d'aujourd'hui tout ça,
mais oui.
Je perds un peu.
Alors le premier numéro donc, sort en septembre 68, avec en couverture...
Alors les Rolling Stones avec Rick Fakin Man,
d'accord.
Canetit, L'Île de Wight, Simon & Garfunkel,
voilà, ça,
et un artiste sur Ice.
Yeah.
Le numéro 2, c'est tout de suite un mensuel?
Non, non, c'est un hebdo. C'est un...
bimensuel, un samedi sur
voilà,
deux.
Voilà, un samedi sur deux.
D'accord.
Ça a duré pendant 5 numéros. D'accord. Et ensuite, il est devenu mensuel.
Donc le deuxième numéro, les Beatles, Ray Charles, l'invasion des groupes américains en Europe, les Doors, Jefferson Airplane, encore Candide. Le numéro 3... Je l'ai sous les yeux, parce que pour moi c'est un grand moment. Ah oui, c'est celui-là, le numéro 3. Pour moi c'est un grand moment, puisque je ne les avais jamais vus. Ils sont en très très bon état. Faut faire attention à ne pas se faire cambrioler ta collection.
Hein. Non, non.
et tu n'en as pas. Alors donc ce troisième numéro, ce sont les Beatles, Yellow Submarine et Eric Burdon. Tu as gardé des archives, des stocks de tes.
Pas du tout.
T'as tout perdu, tout jeté.
Oui, tout est parti à la benne. 20 ans après, ma mère me dit j'ai besoin de la CAF, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, je dis, tu mets tout à la benne, et puis voilà.
Alors que maintenant, c'est très recherché.
C'est très recherché. Oui. Hein,
comme tu disais, lors d'une convention de disques, peut-être aussi un 6 disques de Jukebox Magazine,
oui.
Il y a quelques années, tu as vu que les premiers numéros se
vendaient. En France, c'était de l'ordre de 300 francs à l'époque.
Chaque numéro de la première
année. Oui, le 5 premier numéro, oui, qui sont les plus rares. Oui.
Le numéro 4, Ray Charles à Playel, Herbert Léonard, John Baez, le retour du Jimi Hendrix Experience et Chicken Shack.
Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody
que le staff s'agrandit, puisque l'article est signé Hervé Muller, écrivait à Rock'n'Folk.
Absolument.
Donc je regarde
l'article du premier français.
Alors
Herbert Léonard.
Herbert Léonard, c'est le
premier français.
C'est le premier français dans Best.
Dans Best, oui.
Dans les autres premiers numéros, il n'y en a pas eu.
Non.
Ça s'est beaucoup amélioré entre guillemets après, puisque Best était à l'encontre de Rock'n'Folk, beaucoup plus défendeur des groupes français, hein, après.
Absolument, des groupes.
Je me rappelle les français.
Ah oui, Hervé Bigard.
Le Rock d'ici.
Ça, le Rock d'ici.
Ça, c'est bien après. Donc,
alors, le 5, je ne l'ai pas. Alors, je suis à la recherche du 5, si quelqu'un en a un numéro 5.
Alors, on peut passer une petite annonce.
Je suis preneur.
Et ce numéro 6, donc, daté janvier 69, on voit qu'il y a une belle couverture blanche des Beatles, certainement en l'honneur
de l'album
blanc.
Voilà.
Je vois qu'il y a quand même quelques publicités dès le premier numéro.
Ah oui, oui.
Qu'est-ce que vous avez eu comme...
Polydor nous a fait le premier numéro et il nous a toujours suivis.
C'était une pub sur Arthur Brown.
Fire.
Le 45 tours Fire et le 33 tours Crazy World of Arthur Brown.
I am the god of hellfire and I bring you fire.
Et l'aventure a duré pour toi combien de temps ?
Oh, pas très longtemps, hein. Ça a duré à peu près un an.
Ton dernier numéro ?
C'est celui-ci, c'est le 13-14, il date de septembre 69, ça fait juste un an.
Ah oui, ah oui. Et là, avec une couverture un petit peu plus rigide que les premiers numéros, le papier est glacé. Alors que les premiers numéros, le papier est un petit peu style journal.
Oui, voilà, absolument, oui.
Et ça, c'est... qu'est-ce qui se passe pour ce numéro spécial vacances, numéro 13 et 14, de août et septembre 1960, avec Brian Jones en couverture, Blind Faith, Beach Boys, Soft Machine, Ian Anderson, Richie Havens et Hair.
Et avec du monde, hein.
Ah oui, oui. Et quelle époque. C'est... Brian Jones est décédé.
Ah oui, c'est vrai, absolument, c'est vrai.
Est-ce que Jean-Louis Rancurel a fait des photos dans les...
Oui, bien
dans,
sûr.
Dans les Best aussi.
Ah oui, oui, bien sûr. Mais il a été le premier photographe de Best.
Ah bon? Mais il n'était pas marqué dans le staff. Alors.
Non. Oh. Non. Mais ça a été le premier photographe de Best, c'était Jean-Louis. Oui. C'est même lui qui tirait les typons du... Les
ah
premiers
bon
typons, c'est Jean-Louis qui les...
D'accord.
Qui
et il les apportait à l'imprimeur.
Voilà, voilà.
D'accord.
Mais donc il connaît très très bien le sujet.
Donc, ce dernier numéro pour toi... Ou pour toute l'équipe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en septembre 69 vous
avez... Il a été revendu à un monsieur qui s'appelait Boutin,
ouais,
et qui l'a tenu. Il est malheureusement mort quelques années après, d'un accident de voiture. Et c'est sa femme qui l'a tenu pendant, je pense, une vingtaine d'années.
Mais vous l'avez vendu parce que vous vouliez passer à autre chose?
Parce que, non, parce que, j'avais monté ça pour la musique, pour, ouais, pour vendre, ça m'intéressait. Et puis arrivé au numéro 13-14, en fin de compte, qu'est-ce que je faisais là-dedans? Je m'occupais de tout ce qui était administratif, de la NMPP, de la publicité. Et le journal sortait, je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. J'avais plus le temps de m'occuper de tout ça. Donc, au fond, ça m'a lassé un peu parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le contenu, c'était pas tout le reste. Et on n'avait pas les moyens à l'époque de payer des comptables sur place, d'avoir
un directeur
de publicité, d'un gestionnaire. Tout. Donc, il fallait tout faire. Hein, on était les artisans au fond, hein, donc on faisait tout, et donc je ne savais même plus ce qui sortait dans le journal, donc bon voilà, c'est une lassitude.
Gérard Bernard donc, a participé à Disco Revue avec toi, a participé à Best avec toi,
oui,
et puis a participé à Extra.
Oui, oui.
Mais toi, tu... Non.
Non.
Donc un gars...
Très doué.
Très doué.
Très doué.
Et qui, s'il entend l'émission,
mais c'est,
on se fera un plaisir de l'interviewer, s'il a envie de raconter son...
Voilà. Et il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pochettes de disques.
Ah, d'accord.
Les pochettes de disques de l'époque, tout ce qui était pop art.
Voilà, un peu psychédélique.
Pressage français, c'était lui.
Ah oui.
Ouais, il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on avait des rapports avec les maisons de disques assez directs. C'est une des raisons pour lesquelles on a pu démarrer en publicité.
C'est formidable. Ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un français, par exemple, ou un groupe, ou un artiste français qui t'accrochait à l'époque les 60.
Il y avait Alan Jack.
Alan Jack.
Ah oui.
Vos bureaux étaient situés où ?
Alors, au début, les premiers numéros, c'était une boîte postale, qui était dans le 13e arrondissement. Et ensuite, on a pris des bureaux rue Molière. Rue Molière, à côté de l'Opéra.
Et est-ce qu'il y a des artistes qui ont déboulé une fois chez vous ou des anecdotes marrantes, ou dans les concerts ou,
non.
Je sais pas, un artiste avec qui tu es devenu ami
Vigon.
Vigon.
Ah, Vigon, oui. Vigon. Herbert Léonard, mais surtout Vigon. Oui.
Vigon et les Lemons.
Vigon
je me rappelle, je les avais découverts au Golf Draw, et il y avait Michel Chaunas au clavier.
Oui.
Je me rappelle du 45 tours Bamala Bamalou.
Oui.
Et parce qu'il adorait Little Richard.
Il a toujours sa voix, il a toujours, ouais. Il a toujours le punch, il est extraordinaire.
Vous écoutez Rock & Press. Après le témoignage et les souvenirs de Jacques Morlin, voici mon autre invité, Jacques Leblanc. Jacques Leblanc, c'est le directeur, rédacteur en chef de Jukebox Magazine actuellement, que vous trouvez en kiosque tous les mois. Ça parle des années 60, des collectionneurs de disques et de plein de choses historiques sur la musique. Mais là, on l'écoute raconter ses débuts. On revient en 1968. Jacques Leblanc.
J'ai toujours été passionné par la presse en général et surtout par la musique. J'achetais Salut les copains, Disco Revue, j'aimais vraiment ça, Rocky Folk. Et puis en 68, il y a eu Musique Actualité que j'ai trouvé dans les kiosques. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé longtemps parce que mai 68, ça a tué beaucoup de journaux, comme Hit Parade, comme qu'est-ce qu'il y avait, Moins 20, Formidable. Toutes ces revues-là, à part Salut les copains, ont disparu. Et donc là, il y avait le Rock Story Club où j'ai adhéré. C'était assez long cours dans le Doubs, où j'ai connu Jean-Claude Pognan. Et puis j'ai commencé en 69 à envoyer des petits articles. Et puis j'ai eu le premier qui est paru, je crois, en septembre 69, en retour des vacances. J'étais assez flatté. Mais le journal était redevenu Rock'n'Roll Actuality pour un problème de nom avec la commission paritaire. Et puis ça a duré 3-4 mois. Et après ça, je me suis pointé à Best, où là, j'ai rencontré Gérard Bernard, qui était un des à la base de Disco Revue et des Rockers avec Jean-Claude Berton. Et puis bon, voilà, c'était le point de départ principal dans la presse. C'était un vrai journal, quoi. Je me souviens, la première fois que Patrice Boutin m'a voulu me payer mes piges, j'en voulais pas tellement j'étais content d'avoir un article de publié. Donc à cette première conférence de rédaction à Best, j'ai proposé un article sur Clarence Clearwater Revival, et ça a servi d'accroche dans le numéro suivant. Donc c'était bien pour débuter. C'est les vrais débuts qui étaient assez fascinants parce que la presse rock c'était vraiment un milieu tout petit à ce moment-là, même rock et folk qui grossissait était quand même encore un par rapport à SLC des journaux un peu c'était des niches et c'est redevenu des niches parce que la grande époque de la presse rock ça c'était les années 70, à partir des années 80 ça a de nouveau périclité parce que multiplication des chaînes de radio, des télés, des journaux gratuits. Et donc, avant, pour s'informer, on n'avait que la presse. On avait une vague émission de radio sur Europe, une autre sur RTL, puis sur France Inter, et puis on n'avait pas grand-chose. Donc, il fallait lire les journaux pour savoir ce qui sortait, pour être informé. C'est vrai qu'à partir des années 80, ça a changé la donne. C'était plus aussi vital. Voilà. Puis bon, après, je suis parti à l'armée, et puis le retour a été assez dur. C'est là qu'on s'est connus avec Pop 2000.
En 72.
Ouais. Un coup de bol, à côté de mon libraire, il était exposé. Ça devait être le seul libraire qui le mettait en devanture. Donc je l'ai acheté, puis c'est comme ça.
Puis t'es venu avec Alain.
Voilà, il y avait avec des gens avec qui j'avais écrit avant. Fallait s'accrocher, quoi. C'était pas évident. Enfin bon, on l'a fait, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont fans aiment bien retrouver ces vieux magazines. Et puis, ce qu'on trouvait des fois pas très très réussi à l'époque, maintenant les gens sont très très contents. Tout est relatif. Ouais, bah, dans Best, après Creedence, l'autre gros papier que j'ai fait dans Best, c'était pour les 1 an de la mort de Brian Jones. Et là, j'ai eu la couverture. Des Français, bon, moi, mon truc, c'était au départ, c'était Chaussettes, Chat, Johnny. Après, la grande révélation, ça a été les Stones. Et l'autre truc français, c'était Ronnie Bird. Parce que c'était la première fois qu'un Français chantait comme un Anglais. Il avait le look, il avait le truc, il chantait vachement bien, il avait la présence sur scène. En plus, il enregistrait comme les Stones chez Decca. C'était la classe. Ouais. Alors, un titre qui me ferait plaisir, c'est un morceau comme Je ne mens pas, qui est en même temps un original français et pas une adaptation.